Merci, Marie-Odile. Oui, j'ai choisi pour titre de cette conférence « Quelle place avec l'astuce qui consiste à mettre toujours le S, enfin les deux S entre parenthèses pour les œuvres traduites » pour essayer de m'insérer dans la problématique de cette journée qui est consacrée à la place des traductions dans une bibliothèque de recherche. Alors, si j'ai choisi ce titre, je voudrais le commenter tout de suite, c'est avec quelques petites nuances sur lesquelles je voudrais insister, parce que ces nuances vont un petit peu entraîner, disons, des hypothèses pour la suite de mon intervention. La première chose, je partirai de la fin de mon titre, « œuvre traduite ». Œuvre traduite, c'est-à-dire que je vais me placer en aval du processus de traduction. Le mot de traduction en français désigne à la fois le processus par lequel on passe d'une langue à une autre et le résultat. Alors, pour éviter toute confusion, je me présenterai comme un lecteur d'œuvres traduites. Ce matin, nous avons eu plutôt la façon de voir, nous avons vu comment dans les tables rondes, il s'agissait de produire des textes traduits. Moi, c'est plutôt en tant que lecteur de textes traduits que je me situerai. Alors, je viens d'employer le mot texte, en fait, je n'aurais pas dû, parce que j'ai bien parlé d'œuvres traduites. Et je tiens au mot œuvre, en fait, parce que, et ce matin encore, l'exemple en a été donné, nous avons trop eu l'impression dans nos études secondaires et supérieures que traduire était passer d'une langue à une autre, ou plutôt passer d'un bout de langue qu'on nous donnait à une autre langue, en général notre langue maternelle. Or, je pense que lorsqu'il s'agit d'œuvres que l'on traduit, à ce moment-là, il faut les prendre dans leur totalité, dans leur ensemble. Et par conséquent, je tiens au mot « œuvre » parce que pour moi, il désigne l'ensemble, hein, quelque chose qui est cohérent. Et je dirais, cette cohérence, elle devrait valoir non seulement pour les œuvres littéraires, pour les œuvres scientifiques, pour les œuvres philosophiques, elle devrait aussi valoir, et nous savons que souvent elle ne vaut rien, pour les notices d'appareils électroménagers que nous sommes tous amenés à utiliser de temps en temps les uns et les autres, et que nous avons du mal à comprendre précisément parce que le traducteur n'a pas du tout eu une vision d'ensemble de ce que demandait l'utilisateur. Et d'autre part, je n'aime pas trop le mot « texte », du moins dans cette occurrence ici, parce que je pense que nous avons été victimes, il a été question des dérives des sciences humaines dans la littérature ce matin, mais nous avons été aussi un peu victimes d'un certain textualisme, c'est-à-dire d'une attitude de critique universitaire qui consistait à ne considérer dans une œuvre littéraire, en l'occurrence, que le seul texte, comme un tissu de mots. Or, je suis quant à moi persuadé, j'aurai l'occasion d'y insister à plusieurs reprises, qu'une œuvre, c'est aussi un volume, c'est un objet, c'est quelque chose matériel qui est dans l'espace. Donc, œuvre traduite. Maintenant, pourquoi reprendre le mot « place » Bon, le mot « place » était dans le titre de la journée, donc il m'a été donné. Alors, il est vrai qu'il peut permettre de jouer, les universitaires aiment bien le faire, avec ce mot « place »,« déplacer »,« remplacer » et autres, et peut-être le ferai-je un tout petit peu. Mais je pense que le mot « place » pose réellement un problème lorsqu'il s'agit d'œuvres traduites, je dirais très matériellement, soit dans les fiches des anciens catalogues, non pas les catalogues numérisés, bien sûr, mais les catalogues qu'on trouvait et qu'on trouve encore dans certaines bibliothèques, où les traductions, les œuvres traduites, ne sont pas classées à leur ordre alphabétique. Elles le sont, oui, d'une certaine façon, mais elles viennent après toute une série de catégories, œuvres complètes originales, puis œuvre complète en traduction si ça existe, puis œuvre choisie originale, puis œuvre choisie en traduction, et parfois ce n'est pas les mêmes choses, et enfin les œuvres originales à la suite, et puis à la suite de chacune des œuvres originales, nous avons les traductions, quand elles existent, bien évidemment. Mais ça, c'était le cas des anciens catalogues, qui classaient ainsi. Si vous prenez le catalogue de la BNF Opal Plus, vous avez, si on laisse de côté les classements chronologiques descendants et ascendants, vous avez un classement purement alphabétique. Et à ce moment-là, les traductions, les œuvres originales sous le nom d'un même auteur apparaissent simplement alphabétiquement. C'est une façon de faire, ça n'est pas sans poser quelques problèmes peut-être pour savoir la place que l'on va accorder aux œuvres traduites qui, en l'occurrence, dans le catalogue de la BNF Opal Plus, sont devenues indépendantes. Hein ? Elles ne sont pas mises en rapport directement avec l'œuvre originale. Alors, je laisse de côté d'autres problèmes de classement. Les manuels du libraire et la bibliographie de la France n'ont pas eu pendant très longtemps, je parle de la bibliographie de la France, d'entrée traduction. Le mot, ce n'était pas une entrée possible, donc il fallait les chercher ailleurs, quelque part. On a posé ce matin le problème de l'enseignement de la traduction à l'université. Je pense que certaines universités ont été pionnières. J'ai moi-même essayé à l'université de Nantes dès l'année 1979-80 de lancer, non sans problème, parce que mes collègues de littérature française étaient violemment opposés à cette idée qu'ils ne comprenaient pas, un cours de didactique des littératures étrangères en traduction. Mais donc ça remonte à plus d'une trentaine d'années. Donc ce que j'ai essayé de faire, ça a été de m'intéresser à l'utilisation des traductions. Mais l'utilisation des traductions pose toute une série de problèmes, je vais y venir. Je mentionne peut-être une toute dernière avant de conclure cette introduction, qui est pour essayer de voir un peu les présupposés que je peux vous donner en début. C'est qu'on peut se demander à quelle langue, à quelle culture appartient une œuvre traduite. Ce matin, j'étais tout à fait étonné d'entendre que dans telle bibliothèque ici, on avait trouvé, je crois, sic, que trois œuvres d'Umberto Eco en littérature italienne. Autrement dit, comme il y a d'autres œuvres d'Umberto Eco, où sont-elles, si elles ne sont pas en littérature italienne? Ça signifie que, là aussi, la traduction semble avoir pris son autonomie par rapport à la langue d'origine. Et vous connaissez, je pense, tous la mésaventure qui est arrivée pour une fois à cette maison, qui par ailleurs joue un grand rôle, qui est Gallimard, lorsqu'elle a voulu imprimer dans la Pléiade la traduction de Kafka par Vialat, revue par le germaniste Claude David. Gallimard a été condamné à publier la traduction de Vialat telle qu'elle, parce que la traduction faite par Vialat appartenait à Vialat et à ses héritiers, car c'est l'héritier de Vialat qui a demandé et obtenu sur le plan juridique, hein, c'est une décision du tribunal de Paris, que ce soit la traduction de Vialat qui soit imprimée, puisque le contrat signalait que c'était la traduction de Vialat. Et donc Claude David a été amené à faire des notes rectificatives. Bon, tout ça pour dire que l'objet œuvre traduite fait vraiment problème. Ce n'est pas vraiment un texte, uniquement un texte, je dirais. Ce n'est pas seulement un contenu. C'est un objet qui est d'emblée déplacé, hein, au sens physique du terme, on ne sait pas très bien où le mettre, ou mal placé, où le chercher, où le trouver. Je pense qu'il est aussi déplacé au sens peut-être original du terme. Ce matin, c'est apparu encore à plusieurs reprises. Finalement, l'original, c'est quand même mieux. Bon, certes, mais enfin, combien d'entre nous ici, à commencer par moi, peuvent connaître beaucoup de langues, hein? Tout de même, soyons sérieux, il y a toute une série d'œuvres littéraires que je ne connaîtrai jamais et que je n'ai jamais connues qu'en traduction, que sous forme d'œuvres traduites. Bon, alors, l'œuvre originale, je n'y aurais jamais accès. Alors, bien sûr, l'œuvre traduite n'est pas l'original. Et ça, c'est le reproche fondamental, on n'y peut rien. Goethe a une formule tout à fait curieuse qu'il comprenait peut-être, mais qui est difficile à comprendre. Il disait, il ne faut pas que l'œuvre, que la traduction soit anstatt, en lieu de l'œuvre originale, mais qu'elle soit an der Stelle von, à la place de. Mais entre anstatt von et an der Stelle von, moi-même, je ne suis pas toujours bien sûr de savoir, mais Marie-Odile, qui est germaniste, me dira peut-être exactement comment il faut comprendre les choses. Bon, alors ces préliminaires ne sont pas pour vous annoncer directement mon plan que je vais vous donner maintenant, le plan de mon intervention, mais pour, je dirais, cadrer un peu d'emblée la façon que j'ai, qui n'est pas personnel entièrement, bien sûr, de voir un peu le problème de l'utilisation des œuvres en traduction. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, voici le plan que je vais suivre en trois points, puisque je suis universitaire, mais mes trois points ne seront pas tous en trois points ensuite. Rassurez-vous, il y en aura beaucoup plus parfois. Mon premier point sera la question, apparemment toute simple, qu'est-ce qui indique qu'une œuvre traduite est une œuvre seconde ? Question toute simple, mais j'essaierai de montrer qu'elle n'est évidemment pas si simple que ça. Deuxième point, comment, et ce sera le plus fort de mon développement, le plus long peut-être en tout cas, comment s'arranger avec les œuvres traduites. Bon, s'arranger est un terme un peu vulgaire peut-être, qui ne convient pas trop. Je dirais à ce moment-là plutôt comment partir à la reconnaissance des œuvres en traduction. En employant le mot de reconnaissance au sens, alors évidemment, horrible des militaires, nous sommes tous ici des pacifistes, puisque, bon, au sens des géographes, c'est-à-dire la reconnaissance d'une situation, d'un paysage et de voir les éléments qu'il compose. Donc, comment reconnaître une œuvre en traduction? Et puis, mon troisième point sera de venir sur la question de savoir ce qui justifie finalement l'existence d'œuvres en traduction. Et c'est le mot de fonction que j'utiliserai. Donc j'essaierai de voir quelles sont les fonctions que peuvent remplir des œuvres en traduction. Et pour faire cela, j'utiliserai les travaux d'un certain nombre de personnes, de gens qui sont connus. Je ne citerai qu'un nom, parce que je n'ai malheureusement, comme je pense entre vous, trop peu connu, c'est Antoine Berman, hein, que j'ai connu un tout petit peu à Nantes, un tout petit peu à Paris, et qui est mort vraiment, vraiment trop tôt. Et je voudrais simplement en profiter, puisque j'ai reçu l'indication il y a quelques jours, juste avant de partir, que sa femme Isabelle Berman va publier enfin un recueil d'essais d'Antoine Berman, donc de son mari, sous le titre « L'âge de la traduction ». Ça va paraître, ce sera en librairie. Alors, je ne sais pas si les libraires ici présents sont déjà avertis, ça va paraître en librairie le 11 décembre. Donc, vous voyez, nous sommes le 4, dans une semaine. Et je pense que dans ces travaux de Berman, il y aura un essai inédit. Et je pense, d'après l'annonce que j'ai vue, que cet essai est consacré au célèbre article, au célèbre essai de Walter Benjamin, « Die Aufgabe des Übersetzers », la tâche du traducteur.